à tous, il est 15h ici à Paris, 16h à Gaza.
Karine Bellicha.
Au Proche-Orient, les frappes israéliennes sont particulièrement intenses. À Gaza, elles ont fait 88 morts en 24 heures. Dans un contexte de reprise des négociations pour obtenir une trêve avec le Hamas, Michel Paul nous donnera des explications dès le début de ce journal depuis Jérusalem. Marine Le Pen est attendue à Mayotte en fin d'après-midi. La visite de la chef de file du Rassemblement national à l'Assemblée arrive après les déplacements d'Emmanuel Macron et de François Bayrou. Un défilé de personnalités qui laisse sceptiques des habitants de l'île française, encore démunis après le passage du cyclone Chido il y a un mois. Enfin, nous entendrons la joie d'Alexandre Muller. À 27 ans, le tennisman français a remporté le premier titre de sa carrière à Hong Kong. À Gaza, le bilan est donc particulièrement lourd ces dernières 24 heures. 88 personnes palestiniennes ont été tuées dans plusieurs bombardements de l'armée israélienne. À Jérusalem, les précisions de Michel Paul.
Ce sont les frappes israéliennes les plus intenses de ces dernières semaines sur la bande de Gaza. Plus de 100 cibles sur l'ensemble de l'enclave palestinienne depuis le début du week-end. L'armée israélienne affirme avoir éliminé des dizaines de membres du Hamas selon un communiqué qui précise encore que plusieurs rampes de lancement de roquettes sur Israël ont également été détruites. Comme à leur habitude, les militaires israéliens disent avoir pris des mesures pour atténuer le risque de toucher des civils, notamment l'utilisation de munitions précises. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, lui, a menacé d'intensifier les bombardements dans le territoire palestinien, faute d'un arrêt des tirs de roquettes sur Israël. Alors ces frappes interviennent alors que les négociations pour une trêve et pour la libération d'otages se déroulent dans la capitale qatarienne, et de l'avis de plusieurs commentateurs ici, elles montreraient la volonté de marquer des points sur le terrain avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Le Hamas a, lui, diffusé la vidéo d'une otage sans précision de date. Il s'agit d'une soldate de 19 ans. Autre front, celui du Liban, où une trêve a été conclue cette fois fin novembre. Mais Israël menace de reprendre les combats contre le Hezbollah. Les autorités de l'État hébreu accusent le mouvement chiite libanais de violer l'accord en ne se retirant pas, comme prévu, du sud du fleuve Litanie. En Syrie, la situation est loin d'être stabilisée, notamment dans le nord du pays. Selon l'ONG OSDH, les combats entre les groupes armés soutenus par la Turquie et les forces kurdes syriennes ont fait une centaine de morts ces deux derniers jours. L'objectif des factions pro-turques est de chasser les Kurdes de la région. La neige n'arrête pas la mobilisation à Séoul. Les deux camps sont une nouvelle fois dans la rue aujourd'hui pour manifester. Les uns pour soutenir le président déchu. Il refuse toujours de se rendre à la justice. Les autres pour réclamer son arrestation pour avoir mis en danger la démocratie coréenne. Depuis sa tentative d'instaurer la loi martiale le mois dernier, Yoon Suk-yeol est suspendu de ses fonctions et poursuivi pour rébellion. Le mandat d'arrêt émis par la justice expire demain soir. Moscou affirme que Kiev a lancé une contre-offensive dans la région russe de Koursk. Les forces ukrainiennes y avaient perdu du terrain ces dernières semaines. Après une percée spectaculaire dans cette région frontalière l'été dernier, Kiev ne confirme qu'à demi-mot. En France, Marine Le Pen est attendue à Mayotte un mois après le passage du cyclone Chido dans l'île de l'océan Indien. La chef de file du Rassemblement national à l'Assemblée entend montrer combien elle est à l'écoute d'une terre qui lui est très favorable. Un déplacement de la leader d'extrême droite qui intervient après ceux du président Macron et du nouveau Premier ministre. Certains habitants ne cachent pas leur lassitude face à ce défilé, comme un habitant de Mayotte dont la maison n'a toujours pas d'électricité. Raphaël Del Volvé l'a interrogé.
Ils viennent pour avoir des visibilités à Mayotte, mais voilà, ils ont besoin d'avoir des visibilités et de communication aussi.
On espère vraiment qu'ils vont apporter quelque chose de concret, parce que c'est des choses qui... Ça date vraiment, ça fait longtemps qu'ils devraient faire ça, ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant. Et on espère vraiment qu'ils apportent quelque chose pour Mayotte, pour que Mayotte puisse se développer comme les pays, les îles comme Seychelles, Maurice, tout ça. Nous, on attend ça.
Il nous faut 2 milliards d'euros, comme la France a envoyé 2 milliards d'euros à l'Ukraine pour aider l'Ukraine. Il faut aussi 2 milliards d'euros pour aider le petit Français d'en bas, en fait. Donc, ça serait bien que la France, notre papa, nous aide. S'il envoie 2 milliards d'euros pour construire l'île, on en a besoin. On ne va pas refuser.
Un habitant de Mayotte interrogé par Raphaël Del Volvé. Un tiers des habitations n'ont toujours pas d'électricité à Mayotte. Toujours en France, les autorités interdisent les rassemblements dans Paris et au marché de Rungis dès 18h. Mais la coordination rurale maintient son appel à rallier en voiture ou en tracteur la capitale pour manifester dès lundi. Le deuxième syndicat du secteur entend faire pression sur le gouvernement pour obtenir la sauvegarde de l'agriculture française écrasée selon lui par les normes européennes et le libre-échange. Le Premier ministre recevra les syndicats agricoles le 13 janvier, trop tard pour la coordination rurale. En Autriche, le chancelier conservateur jette l'éponge. Le secrétaire général va assurer l'intérim. Karl Nehammer a annoncé hier soir sa démission après l'échec des négociations avec les sociaux-démocrates pour former le prochain gouvernement. Des négociations tripartites avec les libéraux qui avaient pour but de faire barrage à l'extrême droite, arrivée en tête des législatives en septembre. Cette décision pourrait entraîner des élections anticipées. Voilà des récompenses faites pour irriter Donald Trump. Joe Biden a choisi d'attribuer avec un soin tout particulier la prestigieuse médaille de la liberté à quelques jours de l'investiture de son rival républicain. L'encore président en exercice a décidé notamment de décorer la primatologue Jane Goodall, mais aussi George Soros, haï par le camp Trump, ou encore Hillary Clinton, candidate démocrate battue par celui-ci en 2016. Au Brésil, l'année 2024 a battu des records de température avec une moyenne de 25 degrés, soit près d'un degré au-dessus de la moyenne de ces 30 dernières années. Le réchauffement climatique est en cause, bien sûr, et la situation s'aggrave. À Rio de Janeiro, le reportage de Sarah Cosolino.
La température ressentie est de 38 degrés à Rio de Janeiro en ce samedi et les cariocas sont venus chercher un peu de fraîcheur au centre commercial. Amanda, la vingtaine, fait la queue chez le glacier.
L'année dernière, en 2024, je suis venue au centre commercial spécifiquement pour fuir la chaleur. Je peux passer une journée entière à l'intérieur juste pour respirer parce que dans la rue, c'est impossible.
L'utilisation de la climatisation habituellement réservée aux périodes les plus chaudes de l'été est désormais commune sur toute l'année. Même dans les régions plus fraîches comme les zones montagneuses de l'État de Rio où vit ce couple à Nova Friburgo.
Nous n'avons pas encore mis la climatisation, mais la plupart de nos voisins ont la clim et une cheminée.
Nous sommes en été, mais il y a 15 jours, j'ai allumé la cheminée pour vous donner une idée de ce temps qui passe du très chaud au froid d'un coup.
En 2024, le pays a connu des périodes de sécheresse extrême en Amazonie et d'inondations dans le sud du pays. Cette retraitée ne se sent plus en sécurité où elle vit aujourd'hui.
Moi, je suis très inquiète. Si aucune décision n'est prise, la situation va devenir problématique sur ces questions d'excès de chaleur et de froid.
Sans grande conviction, elle dit espérer que la COP30 en Amazonie réveillera les dirigeants sur l'urgence de la situation. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Edmundo González Urrutia va faire étape aujourd'hui aux États-Unis. L'opposant vénézuélien compte ses soutiens avant de regagner Caracas vendredi prochain. Après l'Argentine et l'Uruguay, il doit rencontrer le président Biden dans la capitale américaine. Washington, comme Buenos Aires et Montevideo, ne reconnaissent pas la victoire de Nicolas Maduro à la présidentielle de juillet dernier, entachée de fraude. Son investiture est prévue le 10 janvier. Edmundo González Urrutia veut être à Caracas ce jour-là pour manifester malgré la promesse de son arrestation par les autorités. Du tennis à présent à Hong Kong, le Français Alexandre Muller a remporté ce matin, à 27 ans, son premier titre sur le circuit professionnel. Classé 67e à l'ATP, il a dominé le revenant japonais Kei Nishikori, ancien 4e mondial. On écoute Alexandre Muller, fier à l'issue de la plus grande victoire de sa carrière.
Je suis très très heureux d'avoir un premier titre sur le tour. Ça représente beaucoup de sacrifices depuis des années, du travail acharné, on va dire, avec mon équipe. C'est top. Et puis j'espère que je vais continuer sur cette lancée cette saison. Je suis super content aussi de m'en être sorti sur 5 matchs comme ça. Ça montre une certaine force mentale cette semaine et j'espère que ça va continuer comme ça. C'est un premier titre, je mérite de célébrer. Et puis après, on repartira au boulot dans 2-3 jours, histoire de se reposer un petit peu, recharger les batteries et puis voilà.
Un mot du Vendée Globe pour finir. Le duel entre Charlie Dalin et Johan Richaume se poursuit en 24 heures. L'écart est resté quasiment le même entre les deux skippers en tête de la course en solitaire autour du monde. Charlie Dalin est toujours leader avec des vents plus soutenus. Il s'éloigne du Brésil et devrait dépasser l'Équateur cet après-midi. Restez à l'écoute des RFI.